Merci beaucoup. D'abord, merci pour me permettre de faire cette présentation, de parler des trajets des travaux de Biomaro. Donc, moi, je suis Marc Villard, directeur de recherche à l'INRA et j'ai co-construit cette présentation avec Richard Chevalier, qui est ingénieur aussi INRAE de Nogent-sur-Vernisson. On est tous les deux dans le Loiret, évidemment. On ne travaillait pas tout seul sur ce projet. Je vais vous l'expliquer par la suite. Donc, cette communication orale présente un petit peu les conséquences sur la biodiversité en Loire-Moyenne suite à des travaux d'entretien qui ont été réalisés par l'État sur ce site. Voilà. Donc, nous sommes sur un des sites ateliers de la zone atelier Loire, le site atelier de Maraud-Près, qui est un des 5 sites de la zone atelier Loire, avec différents enjeux, qui est le fonctionnement global d'un hydrosystème représentatif de la Loire moyenne. Bien sûr, ce projet de Maraud vise à étudier la recolonisation de la biodiversité suite à ces travaux d'entretien. Je vais vous l'expliquer par la suite. La caractéristique aussi de ce site atelier, c'est que c'est une unité conservatoire d'une espèce arborescente, le peuplier noir, une espèce particulière qui fait l'objet d'un programme de conservation des ressources génétiques par le ministère de l'Agriculture. Et aussi, c'est un lieu important de culture scientifique et technique. Alors, comment était l'origine de ce projet? L'origine de ce projet, déjà depuis 2007, de 2007 à 2012, nous avions des travaux de recherche importants entre mon unité et l'Université de Tours sur des aspects d'interaction entre la végétation et la dynamique morphosédimentaire sur les îles de Maraud. Ça fait l'objet d'un diplôme de doctorat par Coraline Vattenberger. Et je dirais que le déclic de ce projet Biomaro a été l'annonce par l'État de travaux de dévégétalisation imposés sur un des îlots de cette mosaïque d'îlots. Vous verrez, je vous montrerai une photo tout à l'heure, parce que l'État avait montré que cet îlot central pouvait être un frein à l'écoulement en cas de risque de crue, dans le cas de la prévention des risques de crue. Donc évidemment, ça pouvait être une menace sur nos travaux de recherche qui étaient en cours, et finalement, on a servi de ce point, évidemment, un peu important pour le transformer en opportunité de recherche nouvelle. Donc, on a en plus demandé, du fait qu'on avait cette expérience en matière par mes collègues géomorphologues, on a demandé de demander également un arasement, un abaissement du niveau de l'îlot, et on a déposé des demandes de financement auprès de la région Centre et du FEDER pour pouvoir travailler sur ces aspects-là. Donc, voilà un petit peu le détail des travaux. Donc, l'état initial en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, qui était un îlot boisé, ça a été dévégétalisé. Les sédiments, 8 000 mètres cubes de sédiments ont été relargués dans la Grande Loire, et les systèmes racinaires également, et on a demandé également un abaissement du niveau topographique de cet îlot central. Donc, voilà un petit peu cette mosaïque d'îlots, hein. On est ici en aval de la ville d'Orléans. La particularité, c'est qu'on est dans une réserve naturelle nationale. Et donc, 2 projets successifs du Maraud, hein. C'est ça, je dirais, l'originalité. Pendant 7 ans, on a pu travailler sur cette dynamique de recolonisation de la biodiversité après ces travaux d'entretien. Dans le deuxième biomaro, il y a un volet paysage. Je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais il y a un volet paysage qui a été rajouté. Donc, il y avait plusieurs échelles. Donc, voilà l'îlot à raser qui a été arasé, cet îlot central qui a été arasé. Évidemment, on a comparé cette biodiversité avec l'ensemble de l'îlot qui fait 13 hectares. Et également, mais je n'aurai pas le temps, ça a été comparé aussi avec un certain nombre de placettes sur la Loire moyenne entre le bec de Vienne et le bec d'Allier. Donc, bien sûr, ça impliquait un certain nombre de partenaires, principalement en région Centre, que ce soit des partenaires de l'INRA et de l'IRSEA. Vous savez que ces deux instituts ont fusionné en INRAE au 1er janvier. Il y a des partenaires de l'Université de Tours avec l'UMR CITER et le CETUENMIS, le Conservatoire botanique bassin parisien d'Orléans, l'INSA de Blois, Sylvie Servin pour les aspects de paysage, et 2 structures associatives, Loiret Nature Environnement, qui gère la réserve naturelle de Saint-Mesmin où se trouvent ces îles de Maraud-Près, et l'association Entomothèque pour tous les aspects d'entomologie. Donc, le projet Biomaro 2 implique 4 tâches, est structuré en 4 tâches. Première tâche sur des aspects de fonctionnement et de modélisation hydrosédimentaire. La deuxième tâche sur des aspects de biodiversité. La troisième tâche sur des aspects de paysage. Et la quatrième tâche, évidemment, sur des aspects de coordination. Donc, cette présentation va se focaliser essentiellement sur quelques résultats sur cette tâche centrale, l'aspect de biodiversité qui a été, je dirais, organisé par Richard Chevalier en 11 actions. Donc, les questions scientifiques sur cette tâche biodiversité et quel état des lieux de cet îlot central qui a été arasé donc en 2012, donc 7 ans après les travaux. Est-ce qu'en 2019, on a un retour à la situation d'origine en matière de biodiversité d'avant travaux? Et comment s'est déroulé ce retour progressif de cette biodiversité? Est-ce qu'il y a eu un retour progressif de cette biodiversité conforme avant travaux? Est-ce qu'il y a eu des succès? Est-ce qu'il y a eu des échecs en matière d'espèces et de communautés? Et quel retour on pouvait avoir de ces travaux de recherche pour les gestionnaires? Donc, je vais vous faire des tentatives de réponse à partir de quelques résultats de Biomaro. Donc, plusieurs points. Végétation à sceller cassé. Donc, voilà la dernière photo de drone qu'un collègue a réalisé en septembre 2020. Donc, voilà l'état de la végétation. On retrouve ici l'îlot central qui a été arasé. Donc, ça, c'est 8 ans après les travaux. Donc, et essentiellement, vous voyez, toutes les taches vertes, ce sont essentiellement des jeunes plants de peupliers noirs avec ce faciès-là. Et en fait, en allant un petit peu plus loin, en décortiquant, on s'aperçoit qu'effectivement, en faisant des inventaires de Smith salicacé, là, il y a des peupliers noirs et des saules blancs également, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a différentes années. On peut dater, grâce à ces suivis annuels par CADRA, on peut dater les différentes années de recrutement. On s'aperçoit effectivement qu'il y a des semis, des plants plutôt de 2013, des plants de 2017-2019. Il n'y a pas de 2015, il n'y a pas de 2016, etc. Donc, pourquoi cela? Si on fait un petit peu une synthèse, qui a été synthétisé dans le cadre de la thèse de Marlène Lefebvre en 2019. Donc, il y a principalement du peuplier noir et du saule blanc. Il y a des installations de semis tous les 2 ans. Pourquoi tous les 2 ans? Parce que si on regarde effectivement ces hydrogrammes, évidemment, pourquoi ces 2 ans? C'est parce que c'est la Loire qui pilote, c'est la dynamique morphosédimentaire qui pilote. Et on voit que si on regarde ces hydrogrammes sur 4 années, entre 2015, 2016, 2017 et 2018, on voit ici les hydrogrammes. En pointillé, c'est le niveau de la barre sédimentaire. Donc, quand l'hydrogramme est au-dessus de ces barres sédimentaires, l'îlot central est submergé. Donc, évidemment, les graines, le mois de mai et le mois de juin correspondent à la période de dissémination des graines. Donc, quand l'hydrogramme est au-dessus, l'îlot est submergé. Donc, on voit dans les années 2015 et 2017, l'hydrogramme à partir de demi-mai était en dessous, donc les graines ont pu s'installer. Vous voyez qu'ici, entre 2016 et 2018, les graines n'ont pas pu s'installer, n'ont pas pu germer. Donc globalement, les semis ont pu s'installer tous les 2 ans. Le taux de survie est très variable. En 2020, globalement, il reste des semis de 2013, il reste beaucoup de semis de 2017 et très peu de 2019. Et on peut dire également que le retour à l'état de la végétation avant travaux, en matière de densité de biomasse, on la retrouve qu'à partir de 2018. Donc, vous avez vu qu'à partir des travaux de 2012, il faut quand même un certain nombre d'années pour que cette végétation puisse se reconstituer. On a regardé évidemment la génétique, c'est un petit peu mon travail, et on s'est aperçu que la diversité génétique à partir du polymorphisme de l'ADN du peuplier noir se retrouve identique à les populations qui avaient de peuplier noir qui avaient avant travaux. Deuxième point sur les aspects de flore vasculaire. Voilà les travaux qui ont été faits sur l'évolution de la richesse spécifique totale des îlots C. Alors, donc, l'îlot C, c'est l'îlot qui a été évidemment arasé et on l'a comparé avec un îlot témoin, l'îlot qui était aval, qui lui n'avait pas subi du tout de travaux d'entretien. Donc, on voit effectivement que le retour, une évolution progressive de la richesse spécifique totale de l'îlot C. On voit ici, donc 2012, c'est avant travaux. 2013, donc suite après les travaux, donc évidemment dans l'îlot arasé, on comprend bien qu'il y a effectivement un effondrement de cette richesse spécifique et on voit effectivement un retour progressif mais il faut quand même un certain nombre d'années. On voit que ce retour progressif est tout juste arrivé à partir des années 2017-2018. Alors pourquoi effectivement il y a des saccades, pourquoi il y a des, je dirais, des sauts, ces pertes de diversité? Bien évidemment, tout ça est lié évidemment à la dynamique sédimentaire encore, avec ces crues de printemps qui effectivement apportent, je dirais, des pertes de richesses spécifiques dues à cette dynamique naturelle. Troisième point, végétation, flore vasculaire et espèces invasives et patrimoniales. Également aussi ici, bonne, je dirais, très bonne surprise. On avait effectivement un peu peur que les espèces invasives s'installent suite à ces travaux d'entretien. Et bien, on regarde ici au niveau espèces invasives, l'îlot C qui a été arasé. Et bien là, je dirais, le niveau d'espèces invasives n'a pas été supérieur par rapport à l'état des lieux avant travaux en 2012. Pareil aussi au niveau espèces patrimoniales, il n'y a pas une richesse supplémentaire par rapport à l'état avant travaux. Les travaux, donc, également n'ont quasiment pas apporté d'espèces nouvelles, ni provoqué d'extinction d'espèces à l'échelle du complexe. En matière de faune, oiseaux des grèves, là, effectivement, là, c'est plutôt. Mais là, on s'y attendait. On a regardé spécifiquement des espèces nicheuses des grèves. Hein. Donc là, évidemment, du fait de dévégétaliser, on pouvait s'attendre effectivement à avoir une abondance supplémentaire de deux espèces plus importantes, de deux espèces de sterne, sternen et sterne pierre-garant, qui sont des espèces protégées au niveau national et au niveau européen. Et le Loiret est un département extrêmement important sur l'axe ligérien. Et bien là, évidemment, on voit l'état des lieux avant travaux, hein, où il y avait effectivement très, très peu de couples reproducteurs du fait de cette végétation absolument importante. Les travaux ont dévégétalisé et on voit l'abondance, l'évolution extrêmement importante du nombre de couples reproducteurs et de couples nicheurs entre 2012 et 2019. Donc là aussi, je dirais, cet aspect de travaux a favorisé l'évolution de ce nombre de couples reproducteurs de sternes. Autre interaction concernant la faune, l'interaction castor-végétation. Une famille de castors est présente sur les îlots depuis les années 80. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez l'étoile. L'étoile, c'est le terrier-hutte de cette famille de castors qui comprend environ 6 individus. Donc, avant les travaux, hein, donc vous voyez ici l'îlot C central. Donc, c'était la principale zone d'alimentation de la famille de castors, hein, qui venait en abondance. On a ici, on avait des abondants rejets ligneux de peupliers noirs, donc qui s'alimentaient préférentiellement. Ils allaient également sur la berge sud. Donc, vous avez compris que en faisant des travaux, les travaux ont complètement détruit complètement cette zone d'alimentation. Et donc, on a étudié comment s'est fait ce report d'alimentation de ces 6 individus, de cette famille des castors. Donc, on voit ici les données de suivi annuel pendant 7 ans. Chaque individu, il y avait en gros 1550 peupliers noirs qui ont été suivis annuellement par différents phénotypages. Soit l'arbre était non touché, soit l'arbre était touché, soit l'arbre était annelé, ou soit l'arbre était tombé. Donc, on voit l'évolution avant travaux. Hein, donc, vous voyez en rouge, voilà, les individus qui étaient effectivement qui servaient d'alimentation par rapport à la famille des castors. Et on voit effectivement que l'îlot en amont était très peu touché, un petit peu les berges sud et un petit peu les îlots en aval. On voit l'évolution en 2018. Bon, évidemment, l'îlot C a été détruit, donc plus d'alimentation par la famille des castors. Et la famille des castors s'est absolument reportée
Monsieur Villard, il vous reste une minute.
Une minute, ok. L'îlot, la famille des castors a reporté son alimentation sur cet îlot et sur les berges. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences, en fait, c'est qu'en fait, si on fait la cartographie du couvert de végétation, le couvert du peuplier noir et de l'érable des Gundo, qui est une espèce invasive, se cale complètement sur cet îlot au nord, sur cet îlot en amont. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelles conséquences? Quand un peuplier noir est coupé par le castor, généralement, le peuplier noir rejette et ne menace pas la vie de l'espèce. Sauf qu'il y a un tel couvert du peuplier noir qui est en sous-étage, il est tellement important qu'il y a compétition pour la lumière, et en 2 ans, il y a la mortalité complète des jeunes rejets du peuplier noir. Donc voilà l'état des lieux de cet îlot en amont en été 2013, et en quelques années, 8 années plus tard, les peupliers noirs ont complètement disparu. Donc voilà le point sur les Ramnengundo. Les Ramnengundo, c'est une espèce invasive avérée. Le couvert est similaire à celui du peuplier noir, comme vous l'a montré. En plus, il pose des soucis, la richesse en bryophytes, lichens et mousses, et je dirais la présence également de chéloptères aussi influe de fait de cette présence-là. Là, les Ramnengundo réduit la ressource alimentaire pour le castor. C'est une espèce post-pionnière précoce qui tolère l'ombrage, et la situation, malheureusement, de les Ramnengundo va s'aggraver. Donc, évidemment, situation très difficile. En résumé, la biodiversité du projet Biomaro, les travaux d'entretien donc détruisent localement des organismes vivants et des habitats, mais favorisent d'autres espèces et créent de nouveaux habitats. Je dirais que ces travaux d'entretien ont compensé l'atténuation des perturbations hydrosédimentaires qui, vous savez, même sur la Loire, se fait moins naturellement et contribution à l'initiation des successions primaires. On peut dire que nous, la chance qu'on a atelier de auprès de la zone atelier Loire, c'est que c'est une étude originale d'une succession primaire à salicacée. On a quand même très très peu d'exemples en France d'avoir une succession primaire. Cette succession qui permet d'à partir d'un stade pionnier d'avoir une succession de forêts de bois tendres et de forêts de bois dur. On a également, et il me reste 3 diapos, il reste également un fort volet sur des c'est aspects
trop,
de lien.
Pardon. C'est trop trois.
Bref, voilà, on a un lien entre chercheurs et gestionnaires, et si vous voulez tout savoir, vous avez le site internet Biomaro dans lequel vous pouvez avoir toutes ces informations. Merci beaucoup.